Seigneur, pour cette heure d'étude biblique, d'introduction à la Bible, prions ensemble. Seigneur notre Dieu, c'est ta parole que nous voulons considérer. Nous savons qu'elle est sainte, qu'elle est efficace aussi, que c'est la parole de la vie. Et nous te demandons de nous aider à la considérer comme nous devons le faire, à bien comprendre ce qui est en jeu, à progresser ensemble. Donne-nous aussi de la joie et de la liberté les uns avec les autres. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. La première leçon sur le prophète Joël commence à reculer dans un passé assez lointain. Je crains que vous n'ayez pas la mémoire très fraîche de ce que nous avons vu il y a maintenant, je crois, presque 3 ou 4 mois. Ce qui veut dire que je vais résumer, mais très très brièvement, ce que nous avons dit la fois dernière pour reprendre là où nous nous sommes arrêtés. Le prophète Joël, avons-nous vu, est un porte-parole de Dieu, c'est ce que veut dire le mot prophète, est un porte-parole de Dieu que Dieu a envoyé au royaume de Juda au 9e siècle avant Jésus-Christ. Ça fait donc presque 3000 ans, pas tout à fait quand même, de 2008, disons. C'est vers 820 sans doute qu'il a exercé son ministère. C'était une époque où le roi n'était qu'un enfant. C'était le seul rescapé d'un massacre de la famille royale, et c'était le grand prêtre, souvent un sacrificateur ou grand prêtre, comme vous voudrez dire, qui dirigeait en fait les affaires, qui avait charge de régence. Ce qui explique que dans le livre de Joël, il ne soit pas fait mention du roi, et que le temple et les prêtres jouent un rôle fort important qui est évoqué à plusieurs reprises. L'occasion du message de Joël, donc, qui s'adresse au nom de Dieu à son peuple, c'est une plaie double d'ailleurs, de sécheresse particulièrement longue, prolongée, et de sauterelles. Les plaies de sauterelles dans les pays du Moyen-Orient, comme aussi en Afrique, la partie nord de l'Afrique et est, sont, paraît-il, vraiment l'épouvante des populations. Il ne reste rien, tout est ensuite rasé, et l'économie du pays est mise en danger pour plusieurs années. Alors c'est l'occasion d'une plaie de sauterelles associée à une longue sécheresse qui a suscité le message du prophète Joël. Et dans la première partie du livre, il est essentiellement question de cette plaie, de sa signification et de l'appel que Dieu par elle adresse à la repentance des Judéens, à la repentance des membres de son peuple. Et la première partie, qui est faite des deux premiers chapitres dans la division des Bibles récentes en français, comme dans les Bibles hébraïques, donc la première partie qui est faite des deux premiers chapitres se conclut par des promesses de restauration. Dieu va rendre à son pays, à la terre désolée par la plaie, toute la richesse agricole qu'elle peut désirer. Dieu va donner la pluie au bon moment, selon les quantités appropriées. Voilà ce qui, en réponse au revirement intérieur du peuple, à la prière collective, au jeûne de tout le peuple, voilà ce qui est la promesse qui clôt la première partie. Mais le livre est construit d'une manière très très raffinée, il a une structure parfaitement mise au point. Le prophète Joël, inspiré par Dieu pour cela bien sûr, ce n'est pas par ses propres facultés seulement qu'il parle, mais c'est conduit par l'Esprit de Dieu. Ses paroles lui sont données par l'Esprit, même s'il les élabore dans son propre esprit humain. Le prophète Joël branche en quelque sorte sur le message à court terme qui concerne cette plaie de sauterelles un message à long terme qui s'inscrit dans toute la suite des révélations prophétiques de l'Ancien Testament. Dans la deuxième partie du livre, chapitres 3 et 4, alors nous avons des oracles qui concernent des temps plus éloignés. Ils sont introduits par des formules un peu vagues, mais qui montrent qu'il ne s'agit plus du tout proche avenir, mais plutôt des époques de conclusion du dessein divin quand le plan de Dieu va aboutir pour son peuple. Et cette deuxième partie, alors, c'est celle que nous devons particulièrement étudier aujourd'hui. Comme je l'ai dit la dernière fois, le commentaire dans la série que publie notre faculté, le commentaire évangélique de la Bible, le commentaire de M. Sylvain Romerovski sur les livres de Joël et d'Abias me semble d'excellente qualité, vraiment un travail que j'ai encore plus apprécié en le relisant pour vous présenter le livre la fois dernière et cette fois-ci. Et je vous renvoie à cet ouvrage de Sylvain Romerovski pour plus de détails, pour examen plus précis encore des points difficiles, pour arguments supplémentaires sur tout ce que je vais vous affirmer. Comme je l'ai signalé, M. Romerovski avait autrefois, dans un lointain passé maintenant, suivi mon cours sur les prophètes, et je suis très heureux de voir qu'il a fait fructifier ce qu'il a pu recevoir à ce moment-là et qu'il lui a donné une force et une précision tout à fait remarquable. Il démontre que la deuxième partie du livre est, comme la première, je vous l'avais dit pour la première, structurée avec soin selon des modalités de symétrie que je vais vous montrer maintenant, parce que c'est le plan donc de cette deuxième partie du livre de Joël. Il y a trois parties qu'on reconnaît très bien parce qu'elles sont chaque fois introduites par une formule indiquant le temps éloigné où tout cela va se produire. Au début du chapitre 3, nous avons « après cela », c'est vague, mais cela reporte le regard plus loin. Au début du chapitre 4, « car voici qu'en ces jours-là, en ce temps-là », de nouveau une formule introductive qui montre que c'est un avenir éloigné qui est en cause. Et puis encore au verset 18 du même chapitre, « en ce jour-là », etc. Vous voyez donc que nous avons l'indication même du texte qui a trois parties. Or, ces trois parties suivent le même plan fondamental, montre Sylvain Romerovski. Chaque fois, il y a salut, jugement et salut. C'est le cas du chapitre 3, de l'oracle du chapitre 3. Verset qui évoque le salut au début. « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos anciens auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, en ces jours-là, je répandrai mon esprit. » Vous avez donc chapitre 3, les deux premiers versets, qui parlent de l'accomplissement d'une grande espérance, l'effusion du Saint-Esprit. Nous allons revenir là-dessus, hein, mais c'est clair, c'est un thème très très positif. Ensuite, jugement. Je ferai paraître des prodiges dans le ciel et sur la terre, du sang, du feu, des colonnes de fumée. La lune, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et redoutable. Il est clair, là, que les versets 3 et 4 parlent plutôt de jugement. En tout cas, ce sont des phénomènes grandioses et terrifiants qui se produisent, des signes du jour de l'Éternel. Et puis, le verset 5, « Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera délivré. Car sur la montagne de Sion et à Jérusalem, il y aura des rescapés, comme l'a dit l'Éternel, et ceux que l'Éternel appellera seront parmi les survivants. » Je reviendrai sur la traduction même dans ce passage, mais voyez bien que ce verset 5, ici, parle à nouveau de salut. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera délivré ou sauvé. Donc, nous avons cet ordre-là, salut, jugement, salut. Vous prenez ensuite le deuxième grand ensemble, qui est plus long, les 17 premiers versets du chapitre 4, et vous retrouvez le thème du salut dans les premiers versets. Voici, en ces jours-là, je ferai revenir les captifs de Juda et de Jérusalem. Donc, 4.1 correspond au thème du salut. Mais on passe tout de suite au verset 2, à celui du jugement. Je ne vais pas lire tout le passage maintenant, mais quelques éléments. Je rassemblerai toutes les nations, je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple et de mon héritage Israël. Et encore plus loin, après les attendus du jugement, pourrait-on dire, proclamez ceci parmi les nations, préparez la guerre, réveillez les héros, qu'ils s'approchent, qu'ils montent, tous les hommes de guerre. De vos socs forgez des épées et de vos serpes des lances, que le faible dise, je suis vaillant. Dépêchez-vous et venez, vous toutes les nations alentour, rassemblez-vous. Que les nations se réveillent et qu'elles montent vers la vallée de Josaphat. Là, je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Lancez la faucille, car la moisson est mûre. Venez fouler, car le pressoir est plein et cuve regorge, car grande est leur méchanceté. Voici des fous et des foules dans la vallée du verdict. Nous avons donc là le thème du jugement, clairement, et qui va jusqu'au verset 15. 15 ou 16a. Et puis on revient au thème du salut avec 16b et 17. Là, il s'agit de l'attitude du Seigneur à l'égard d'Israël, de Sion, l'Éternel rugit de Jérusalem. Il donne de la voix. Le ciel et la terre sont ébranlés, mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les Israélites. Vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel votre Dieu, qui demeure à Sion, ma sainte montagne. Jérusalem sera sainte, et les profanes n'y passeront plus. Et puis le même schéma, salut, jugement, salut, vous le retrouvez encore dans la troisième des parties. D'abord le salut, en ce jour-là, le jus de raisin ruissellera des montagnes, le lait coulera des collines, les eaux couvront dans tous les torrents de Juda. Une source aussi sortira de la maison de l'Éternel et arrosera le vallon de Chittim. Donc, 4.18 a une fort belle promesse de salut. Mais le verset 19 rappelle le jugement. L'Égypte deviendra une désolation, Édom deviendra un désert, une désolation, à cause de la violence contre les fils de Juda dont ils ont répandu le sang innocent sur la terre. Donc 4.19, ce jugement. Et les versets 20 et 21, alors, sont des promesses. Mais Juda sera toujours rebâti, ainsi que Jérusalem de génération en génération. D'après la traduction ici adoptée, je ferai la purification de leur sang dont je n'avais pas fait la purification, et l'Éternel demeurera dans Sion. Donc, le thème du salut au 80-21. Et en plus, alors, on peut remarquer que les trois grandes parties, elles-mêmes, correspondent par leur note dominante aussi à ce même schéma. Ce qui est prédominant dans le premier de ces oracles, c'est le thème du salut. Il est question du jugement, surtout comme des signes de bouleversement qui accompagnent le jour de l'Éternel. Mais ce qui, bien sûr, est le plus fort dans ce passage, c'est l'annonce de l'effusion de l'Esprit et du salut par l'invocation du nom de l'Éternel. Dans la deuxième partie, au contraire, il suffit de voir le nombre de versets. Ce qui prédomine, c'est le thème de la vallée de Josaphat et vallée du verdict, c'est le thème du jugement. Donc, vous avez, pour cette deuxième partie, une prédominance jugement. Et puis dans la troisième, il n'y a pas besoin de vous persuader, je crois, vous le voyez facilement d'emblée, c'est le thème du salut qui apparaît. C'est là un nouvel exemple de l'art de la maîtrise avec lesquelles Joël a su composer son ouvrage, faire un livre d'un remarquable équilibre. Et je pense que nous pouvons trouver un message, déjà, un message qui est bienfaisant à nos cœurs, dans cette structure où salut et jugement sont annoncés conjointement, et c'est comme ça dans toute la Bible. Jamais le salut en pâte de guimauve, un salut sucré sans jugement, mais où le premier et le dernier mot sont quand même des paroles de salut. Oui, le jugement, Dieu qui est un Dieu saint, ne peut pas passer par-dessus, dire « Oh, je ne m'en occupe pas, sa grâce n'est jamais une vague indulgence qui oublie la nécessité du jugement, mais il reste qu'il est le Dieu du salut, qu'il est celui qui ne veut pas la mort du pécheur, mais qui se convertisse et qu'il vive, qu'il est le Dieu qui révèle son nom comme le Dieu riche en bienveillance et en fidélité, ou en grâce et en vérité, comme on peut aussi traduire le Dieu bon et miséricordieux. Oui, il est le Dieu du salut. Alors, ici, l'encadrement du thème du jugement par le thème du salut me semble un témoignage dans le plan même qu'a choisi le prophète de cette prédominance, de cette prépondérance du salut dans le message de Dieu. Voilà en ce qui concerne le plan de ce livre que nous pouvons admirer, qui pourra peut-être nous aider à bien comprendre ce qui est en jeu, parce qu'on voit que ce n'est pas tant une suite chronologique, que chaque fois des thèmes qui sont bien agencés, mais il faut venir plus au détail maintenant et considérer les trois oracles. Je pense qu'il n'est pas douteux que le premier des trois, donc qui correspond au chapitre 3 dans nos versions, dans la vieille version seconde, c'était la fin du chapitre 2, il n'y avait que trois chapitres en tout, que c'est ce chapitre 3 qui est le morceau le plus important d'ailleurs de tout le livre de Joël. La preuve, c'est celui qui est cité dans le Nouveau Testament plusieurs fois. Cela nous indique clairement son importance. Promesse de l'effusion de l'Esprit de Dieu et, à l'occasion de la venue du jour de l'Éternel, aussi d'une possibilité de salut dont les conditions sont données au verset 5. Alors prenons ces éléments tour à tour et puis voyons ensemble s'il y a des difficultés aussi qu'il faut résoudre. Ces séances d'institut biblique sont là pour nous aider aussi à lever les difficultés s'il y en a. Dieu annonce qu'il répandra son esprit sur toute chair. Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi correspond ce langage? Je crois qu'il faut d'abord se rendre compte que c'est une image. Que le mot répandre en français peut-être a perdu un peu de sa valeur métaphorique, qu'on oublie qu'il s'agit, comme disent parfois certains commentateurs, d'un verbe liquide, d'un verbe qu'on emploie pour du liquide. Ce verbe-là pourrait se traduire aussi bien déverser. Déverser. Le mot effusion, là c'est un terme encore plus technique, on dit l'effusion du Saint-Esprit, mais ça pourrait se rendre en français le déversement du Saint-Esprit. C'est exactement l'image de la ménagère qui attrape un grand seau d'eau, qui le verse, qui le déverse sur son carrelage quand elle veut nettoyer. C'est le déversement, je déverserai mon esprit. Voilà la promesse du Seigneur. L'esprit est comparé à de l'eau. Là, nous avons un des cas bibliques les plus frappants, où c'est le symbole de l'eau qui représente le Saint-Esprit. Il y a d'autres symboles du Saint-Esprit, il y a l'huile, il y a le feu, il y a la nuée, la sombre nuée. La plupart d'entre ces symboles, d'ailleurs, à part celui de l'huile, viennent de l'image de l'orage. Ces orages extraordinaires du désert qui sont comme les signes de la puissance de Dieu, de son écrasante souveraineté. Alors l'esprit est du feu comme la foudre et de l'eau comme les cataractes qui se déversent lors des grands orages et qui gonflent tout à coup les ouèdes dans le désert ou les sombres nuages d'où cette eau descend. Et ici donc c'est l'eau qui représente le Saint-Esprit et il faut s'imaginer non pas une petite pluie fine comme ce matin, il faut s'imaginer le déversement de cataractes d'une pluie diluvienne qui tombe du ciel, que Dieu déverse. Il ouvre les écluses des cieux, une image qui se trouve ailleurs comme vous savez, et il déverse son esprit sur les humains. Voilà, voilà ce qui est promis ici, et vous vous apercevez d'ailleurs que ça a un lien alors avec ce qui précède. C'est pas pour rien que la deuxième moitié du livre est accolée à la première. Joël joue très habilement. Il vient d'annoncer, après la grande période de sécheresse, qu'il va y avoir des pluies abondantes. Et maintenant, ayant annoncé ces pluies, il parle d'une autre pluie. La pluie de l'Esprit de Dieu, que Dieu va déverser abondamment. On peut dire que dans l'Ancien Testament, Dieu, à diverses reprises, a fait pleuvoir de l'Esprit, a donné de l'Esprit qui est descendu sur telle ou telle personne. Mais la promesse qui est faite, c'est de quelque chose qui se produira dans les temps à venir, qui sera à beaucoup plus grande échelle, voyez, où vraiment Dieu déversera son Esprit. Donc, la différence là... Bien sûr, ce n'est qu'un aspect de la différence, mais une différence quantitative. Dieu, bien sûr, n'a pas été sans donner des biens de son esprit aux croyants de l'Ancienne Alliance, mais il y a une surabondance qu'il promet pour le temps à venir, où il va là faire dégringoler comme des cataractes du ciel. Et, c'est le point qui est mis en relief dans tout ce qui suit, sur toute chair, c'est-à-dire sur tout être humain. Et l'expression « toute chair » est une expression stéréotypée dans l'Ancien Testament qui signifie « tous les êtres humains ». Toute chair a péri dans le déluge, sauf Noé et sa famille. Toute chair, la voie de toute chair, le chemin de toute chair, ça veut dire la mort. Parce que tous les humains connaissent la mort, ce sont des expressions tout à fait caractéristique du langage de l'Ancien Testament. Alors je répandrai mon esprit sur toute chair, ça veut dire sur tous les humains. Je ne le restreindrai pas à quelques-uns comme porteurs de mon esprit. Et c'est ce que nous expliquent les versets qui suivent. Les fils, les filles, les anciens, les jeunes gens, les serviteurs, les servantes, pas de distinction d'âge, pas de distinction de classe sociale. Voyez, c'est tous les êtres humains qui seront au bénéfice de ce déversement de l'Esprit de Dieu comme d'une eau céleste. Voyez. Voilà la promesse. Et tout de suite, me semble-t-il, on peut remarquer que c'est l'accomplissement d'un vœu qu'avait formulé Moïse. Au chapitre 11 du livre des Nombres, il nous est rapporté que Moïse, ayant trop à faire, il était surchargé, surmené, le pauvre Moïse, comme il arrive d'ailleurs, à d'autres serviteurs de Dieu à d'autres moments, Dieu lui a donné des assistants en quelque sorte. Et il a mis de son esprit sur 70 anciens du peuple. 70 anciens qui ont reçu de l'esprit qui était sur Moïse pour participer à son ministère. Mais il s'est trouvé qu'au rendez-vous, deux d'entre eux ne se sont pas trouvés. Est-ce que c'était leur faute ou c'était pas leur faute? On n'en sait rien, le texte ne le dit pas. En tout cas, ils n'étaient pas là au moment du rendez-vous. Et Dieu, dans sa grâce, leur a donné, là où ils étaient aussi, cet esprit qu'il avait donné au précédent. Et ils se sont mis à prophétiser en signe qu'ils avaient reçu cet esprit, à parler au nom de Dieu, recevoir une parole de la part de Dieu. Et alors, les assistants de Moïse, pas les 60, les 70 anciens, qui, mais ces aides, j'étais pas content. Hein. Les choses ne se passaient pas dans l'ordre. Puis ils avaient un peu l'impression que le prestige de Moïse était un peu atteint. Pour les ceux qui avaient été présents au rendez-vous, ça s'était fait en présence de Moïse. Bon, ça avait l'air d'être, selon la voie hiérarchique, Moïse étant reconnu comme le vrai leader. Mais pour les deux qui n'étaient pas au rendez-vous, vraiment là, ça se faisait en court-circuitant complètement le rôle de Moïse. Alors, les associés de Moïse ne sont pas contents. Et Moïse leur dit, il est calme. Enfin, c'est un très bel exemple de cette sérénité de Moïse après que le Seigneur a dû traiter le problème de son caractère emporté, parce que naturellement il avait le caractère emporté. Mais la sérénité de Moïse est le plus doux de tous les hommes, apparaît là en nombre 11. Il est calme et puis il leur dit « Ah, puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes !» Je ne suis pas jaloux de l'esprit comme une possession juste pour moi ou pour ceux qui sont immédiatement sous mon autorité, mais je souhaiterais que tous aient part à l'Esprit de Dieu. Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes. Mais dans le cadre de l'Ancien Testament, c'est un vœu qui n'est pas réalisé. Parce qu'il y a des gens dans le peuple d'Israël qui ont part, d'une manière d'ailleurs souvent un peu cachée, à l'Esprit de Dieu. Il y a des prophètes ici et là qui ont part de manière la plus visible à l'Esprit de Dieu, mais il y a aussi des tas de gens qui n'ont pas part du tout à l'Esprit de Dieu. Il nous est bien dit que dans le peuple d'Israël, il y a des incroyants, des gens qui sont incirconcis de cœur, ce qui veut dire qu'ils ne sont pas régénérés, qui n'ont pas l'Esprit de Dieu du tout. Alors dans le peuple d'Israël, le vœu n'est pas réalisé. Et ce qu'annonce le prophète Joël au nom de Dieu, c'est qu'un jour vient, mais qu'un jour vient où Dieu déversera son esprit sur toute chair, toutes les catégories, tous auront part. Alors vous savez quand ça s'est fait, quand ça s'est produit, parce que c'est dit, on ne peut plus clairement dans l'Écriture, au chapitre 2 du livre des Actes, vous vous rappelez ce qui se passe, le jour de la fête de la Pentecôte, c'est-à-dire les 50 jours après la fête de la Pâque, les disciples, les 120, sont réunis dans un même lieu, selon l'ordre que Jésus leur a donné avant de les quitter, dans la tente. Et puis tout à coup, se produit comme le bruit d'un vent impétueux, des flammes, des langues de feu se posent sur leur tête, ils commencent à louer Dieu dans toutes sortes de langues qu'ils n'ont pas apprises. Les gens se demandent, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais certains disent, ils sont sous, mais non, pas ceci. Bon. Et Pierre prend la parole et dit, c'est ici ce qui a été annoncé par le prophète Joël. Et il cite longuement la prophétie de Joël 3. Ce qui s'est passé à la Pentecôte, la première Pentecôte chrétienne, c'est ce déversement de l'Esprit-Saint sur toute chair, avec des signes qui montraient que l'Esprit était donné, non pas seulement à quelques-uns, une élite, mais qu'il était maintenant donné à tous les membres du peuple de Dieu. Alors à ce propos, je pense qu'il y a deux ou trois questions qui doivent être traitées un petit peu plus techniques. Hein. Je vous expliquais là l'essentiel, c'est ce qu'il faut bien retenir. La première de ces questions concerne les petites différences de texte que l'on a entre acte 2 dans la citation et le texte de Joël. Ça pourrait vous troubler et je crois qu'il faut le signaler. Il y a deux différences que la citation présente par rapport au texte de Joël. Dans les derniers jours, ça c'est une traduction légitime du après cela, c'est bien ce que ça veut dire, donc ça c'est pas une vraie différence, mais il est dit, acte 2, 17, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et puis ensuite, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes En ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Donc, de mon esprit au lieu de mon esprit, et mes serviteurs et mes servantes au lieu de les serviteurs et les servantes. Alors, il faut dire que Pierre, ici, dans le livre des Actes, en tout cas, cite d'après la version courante, la version dite des Septante, abrégée la Septante, la version qui était en grec, la version usuelle parmi les Juifs de son temps. Et c'est pas lui, Pierre, qui a changé le texte. Il a simplement utilisé la version courante. Comme moi, tout à l'heure, j'ai lu dans la Bible à la Colombe, version courante. Je vais tout à l'heure dire que je suis pas tout à fait d'accord sur quel point, mais je vous ai lu d'abord dans la Bible courante, oui, dans le texte que tout le monde a entre les mains. Alors, Pierre utilise ce texte-là, ou peut-être simplement est-ce Luc, parce qu'il n'est pas dit que Pierre a parlé en grec. Il a pu parler en grec, parce qu'il était quand même assez souvent utilisé en Palestine aussi, le grec, mais plus probablement, il a parlé en araméen, donc une autre langue. Et c'est Luc, écrivant lui le livre des Actes en grec, qui a pris alors la Bible usuelle, la Bible des Septante, pour donner la forme de la citation comme on l'a couramment. Donc vous voyez, ça ne doit pas nous troubler spécialement, c'était la traduction habituellement entre les mains des juifs de l'époque et aussi donc des chrétiens. Ça c'est la première remarque à faire. La deuxième, c'est que la différence ne doit quand même pas être majorée. De mon esprit a sans doute été rajouté par ces traducteurs juifs de la Bible en grec, les Septante, parce qu'ils avaient peur que les gens s'imaginent qu'alors Dieu n'avait plus d'esprit. Oui. Bon, c'est un peu naïf, mais c'est sans doute pour ça qu'ils ont mis de mon esprit. Mais, bon, en un sens, on peut dire que quand nous recevons l'esprit, c'est bien de l'esprit de Dieu que nous recevons. C'est de Jésus seul qu'il est dit qu'il ne recevait pas l'esprit avec mesure. Nous ne sommes pas, en quelque sorte, capables de du sans mesure comme l'était seul Jésus, même si c'est la personne qui ne se divise pas du Saint-Esprit qui nous est donné, qui habite en nous. Et d'ailleurs, dans la première épître de Jean, je crois que nous avons, je n'ai pas la regardé à nouveau le texte, mais nous avons, me semble-t-il, à quelque endroit, dont je ne retrouve pas maintenant, mais une expression qui correspond à peu près à deux, son esprit. Donc il ne faut pas nous mettre martel en tête à propos de cette différence. Et il ne faut surtout pas dire, comme parfois, j'ai une fois discuté avec quelqu'un qui avait cette opinion, « Ah, comme c'est de mon esprit, ce n'est pas encore l'accomplissement de Joël 3. » Certains on dit, ah, comme c'est changé, comme c'est pas de mon esprit, alors l'accomplissement de Joël 3 est encore futur pour nous. Mais c'est pas ce que dit Pierre. Pierre dit, c'est ce qui a été dit par le prophète Joël. Alors si ce n'a pas été dit par le prophète Joël, Pierre est un faux témoin. Pierre n'a pas vraiment parlé selon la vérité de Dieu. Donc on ne peut pas se servir de cette différence comme d'un argument pour essayer de neutraliser l'affirmation d'acte 2, comme quoi ça s'est réalisé. La deuxième différence, peut-être était-elle une déformation un peu volontaire de la part des bourgeois, des aristocrates du judaïsme. Ils étaient un peu trop choqués par l'idée que c'était les serviteurs et les servantes, c'est-à-dire aussi les esclaves, qui allaient être au bénéfice de cette effusion du Saint-Esprit. Et alors ils ont mis « mes serviteurs, mes servantes ». Mais on n'est pas du tout obligé de penser que Pierre a repris ces termes avec la même intention et dans le même sens. Ce sont bien les serviteurs et les servantes de Dieu que les esclaves, au sens littéral du terme, les esclaves masculins ou féminins. Et ils appartiennent au Seigneur. Donc la formule n'est pas fausse pour restituer la pensée du livre de Joël. On n'a pas forcément abandonné la pensée du livre de Joël quand on a mis le possessif. Oui. Ce sont là les deux différences. Et je crois qu'elles ne doivent pas donc nous empêcher de reconnaître ce qui est dit en clair en acte 2, que nous avons l'accomplissement de cette prophétie qui est à ce moment-là produit, jour de la Pentecôte. J'ajouterai cependant deux choses. Je crois qu'il faut nous garder de spéculer sur une deuxième Pentecôte qui bien d'accord qu'il y a eu un premier accomplissement, serait un deuxième accomplissement. Il y a un certain nombre de chrétiens évangéliques qui ont joué avec cette idée, parce que ça plaît à l'esprit de se dire qu'il y a une symétrie entre le début de l'ère chrétienne, la fin de l'ère chrétienne. Donc, l'idée d'une deuxième Pentecôte, je crois, n'est pas attestée dans la Bible, elle n'est pas présente ici. Si quelqu'un dit, bien sûr, d'accord, Pierre a raison, ça s'est produit le jour de la Pentecôte, mais ça doit se produire encore, il dit cela sous sa propre responsabilité. Il n'y a aucun verset de la Bible qui lui permette de l'affirmer. Mais, cela dit, je crois qu'il faut nous rappeler que la Pentecôte, c'est un commencement. Ce n'est pas une fin. Et que l'image qui doit être dans notre esprit, c'est celle des cataractes déversées du ciel, de l'eau vive de l'Esprit-Saint, qui commence à couler le jour de la Pentecôte, mais qui continue ensuite. Dieu n'a pas ouvert ce jour-là les écluses des cieux pour les fermer après. L'image que la Bible, je crois, nous invite à recevoir, c'est celle d'une pluie du Saint-Esprit qui continue et sous laquelle nous nous plaçons quand nous croyons. C'est pour cela que le Nouveau Testament emploie à la fois pour l'événement de la Pentecôte l'expression de baptiser dans l'Esprit-Saint et pour le croyant individuel. Lorsque Jean-Baptiste a dit « Moi je vous baptise d'eau, mais lui vous baptisera d'Esprit-Saint et de feu dans certains textes », il annonçait la Pentecôte. Oui. Parce que baptiser, hein, c'est plonger, c'est immerger, c'est sous ces cataractes d'eau. Voyez. Donc il vous submergera de l'Esprit-Saint qu'il déversera du ciel. Il vous baptisera d'Esprit-Saint. Oui, ça s'est réalisé à la Pentecôte. Mais Paul peut écrire aux Corinthiens qui n'étaient pas là le jour de la Pentecôte. Vous avez tous été baptisés en un seul esprit. Parce que lorsque nous venons dans la foi, en quelque sorte nous entrons sous ces cataractes, nous sommes baptisés dans l'Esprit-Saint parce qu'il continue de couler. Vous voyez l'image qui, je crois, convient et qui peut-être n'a pas été assez présente dans notre esprit, de telle sorte que les gens se sont sentis obligés de dire « mais ça doit se produire une deuxième fois ». Comme s'il ne coulait plus d'Esprit-Saint du ciel. Mais ce n'est pas la pensée de la Bible. Voilà donc sur cette première partie de l'oracle. Deuxième partie, alors les signes terrifiants de bouleversement. Le soleil se change en ténèbres, la lune en sang, c'est des façons de parler des éclipses qui étaient courantes à l'époque de l'Ancien Testament. Il est probable qu'il y a un lien aussi avec le phénomène physique qui a été évoqué dans la première partie du livre, parce que la plaie de sauterelle, ça fait comme une éclipse. On n'y voyait plus en plein jour parce qu'elles s'obscurcissent complètement le ciel, ces sauterelles. Il y a un certain rappel de la plaie de sauterelle aussi dans ces images. Mais l'idée clé, c'est celle du grand bouleversement cosmique qui s'opère. Alors, question principale à ce propos, est-ce que ça s'est produit aussi ? En général, ceux qui sont gênés par l'idée que la prophétie est accomplie, comme Pierre l'a dit, sont gênés parce qu'ils disent « mais ça ne s'est pas produit, ça !» Les versets 2, 3 et 4. Alors, la réponse, à mon avis, doit être nuancée ici. Il y a plusieurs éléments qui jouent. Premier élément, nous devons nous rappeler que les prophètes sont des poètes qu'ils emploient un langage, nous l'avons dit l'une des premières fois, un langage qui est plein d'images et de symboles et d'hyperboles aussi, parce que c'est tout à fait dans le goût oriental, et que prendre tout à la lettre, c'est souvent se condamner à manquer le sens, ce qu'ils ont vraiment voulu dire. Alors attention, ça c'est le premier point. Deuxième point, en fait, si on regarde les écrits du Nouveau Testament, on s'aperçoit qu'en liaison avec la Pentecôte, des événements de ce type se sont produits. Bon, il y a eu le feu, le jour de la Pentecôte même, il y a eu l'éclipse, quelques jours avant, lors de la crucifixion de Jésus, oui, le soleil s'est changé en ténèbres et la lune en sang, il y a eu éclipse. lorsque Jésus est mort, lorsqu'il a poussé le grand cri qui nous est dit. Donc en fait, il y a eu des signes de ce type assez littéralement, qui se sont produits pour signaler que la prophétie s'accomplissait. Et puis, on peut encore signaler, ce Sylvain Romerovski met cela très bien en valeur, que ce thème du bouleversement cosmique se retrouve chez les prophètes qui suivent, et en particulier dans le livre d'Agé, qui est venu beaucoup plus tard. Il est question là d'un grand bouleversement de la terre et des cieux. Je secourrai la terre et les cieux. Or, ce verset d'Agé, pas celui de Joël, d'accord, mais ce verset d'Agé est cité par l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, à la fin du chapitre 12, comme s'appliquant au grand bouleversement de l'univers spirituel que la fondation de la Nouvelle Alliance a impliqué. Donc, c'est assez intéressant, nous avons une interprétation inspirée par Dieu dans le Nouveau Testament qui nous explique comment il faut prendre cette présentation du grand bouleversement cosmique. Et puis, troisième élément, l'accès au salut, alors que les jugements de Dieu s'exercent, mais le jugement de Dieu s'est exercé dès la première venue. L'accès au salut. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Dans ce grand bouleversement, les hommes sont saisis d'effroi, sans doute. C'est un signe de cette puissance sainte de Dieu qui se déploie. Et ils se demandent comment ils pourront être sauvés. Et la réponse, c'est quiconque invoquera le nom du Seigneur, c'est-à-dire fera appel au nom du Seigneur, sera sauvé. Rien de plus ne sera demandé. Pas des œuvres à faire, il ne faudra pas forcément offrir tel ou tel sacrifice. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et c'est ce que le Nouveau Testament met en relief. C'est précisément en évoquant ce passage en acte 2, 39 que Pierre répond à la question des gens qui sont là réunis à Jérusalem. « Hommes, frères, que ferons-nous ? Comment allons-nous pouvoir être sauvés ? » Repentez-vous. C'est pour vous, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. C'est une réminiscence de la fin du verset ici. Et dans Romains 10 aussi, l'apôtre Paul, cette fois, cite ce passage, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé », comme le verset clé pour fonder l'évangélisation. Selon le Nouveau Testament, le salut maintenant est offert à quiconque le demande au Seigneur. Et le Seigneur l'appelle même à le demander. Le Seigneur appelle, quiconque invoque le nom du Seigneur lui dit, « Seigneur, Seigneur, viens à mon secours. » Il est sauvé. Il est sauvé. Voilà la promesse qui est faite ici de manière très très forte et en association avec la promesse du Saint-Esprit. Alors il y a une petite difficulté de texte dans ce verset que je signale. D'abord, il y a la citation d'Abdias dont je vous ai déjà parlé la dernière fois. Comme l'a dit l'Éternel, c'est une formule de citation, car sur la montagne de Sion il y aura des rescapés. C'est le verset 17 d'Abdias. Le prophète Joël s'appuie dans cet oracle, sur un oracle antérieur que le prophète Abdias avait prononcé. Mais ça, ce n'est pas une difficulté, c'est un point simplement que je fais remarquer. Mais il y a une difficulté, c'est qu'on ne comprend pas très bien la fin de la phrase « Et ceux que l'Éternel appellera seront parmi les survivants ». Est-ce que Dieu en appelle seulement quelques-uns ? Et puis surtout, le mot « survivant » est équivalent de « rescapé » normalement. Et c'est comme ça dans l'usage ordinaire de l'Ancien Testament. Il faut reconnaître que le texte que nous ont légué les rabbins dit ça, et c'est un peu bizarre. Mais si on suppose qu'il y a eu juste une petite erreur de scribe, alors on a un texte qui est beaucoup plus facile à lire et à comprendre. C'est le texte que la Bible de Jérusalem, la New English Bible, ont utilisé et que Sylvain Romerovski aussi préconise, et moi je suis d'accord. Je crois qu'il y a une petite erreur de scribe et qu'il faut lire. Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera délivré, sauvé, car sur la montagne de Sion, il y aura des rescapés, comme l'a dit l'Éternel. C'est ça la citation exacte d'Abdias. Et à Jérusalem, des survivants que le Seigneur ou que l'Éternel appelle ou appellera. Donc, le « à Jérusalem » a été mal placé, il a sauté d'une ligne à l'autre, sans doute parce qu'il y avait des lettres qui se ressemblaient lorsqu'un scribe a recopié. Et si on le met donc dans le deuxième morceau, on a une citation exacte d'Abdias, on a un parallélisme normal selon les lois de la poésie hébraïque, on a un balancement qui convient. Je crois qu'on peut, en effet donc restituer le texte comme l'a fait la Bible de Jérusalem, comme le fait Sylvain Romerovski. Donc quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera délivré, car sur la montagne de Sion il y aura des rescapés, comme l'a dit l'Éternel, et à Jérusalem des survivants que l'Éternel appellera. Voilà pour ce morceau central, dont vous voyez l'importance qu'il a pour nous, pour le Nouveau Testament, cité en Acte 2, cité en Romains 10, et peut-être des allusions encore ailleurs. Mais il faut que je dise quand même aussi un mot maintenant des deux autres grands morceaux. En ce qui concerne le chapitre 4, versets 1 à 17, consacré principalement au thème du jugement, donc il faut dire d'abord que le tremplin, là de nouveau, est un tremplin dans l'histoire proche pour le prophète, et que les crimes qui sont reprochés aux païens qui vont être punis, ce sont les crimes qui se sont produits à l'époque d'Abdias. Vous vous rappelez que nous en avons parlé, les crimes de ces peuples voisins qui ont profité d'une défaite de Juda pour piller, pour prendre aux frontières des lambeaux de territoire, pour prendre surtout des prisonniers, des jeunes, et les vendre comme esclaves dans tout ce monde méditerranéen où il y avait un marché pour les esclaves. Alors ce sont ces crimes-là du IXe siècle qui servent de tremplin pour la dénonciation des crimes des nations et l'annonce de leur jugement. Et vous avez vendu, les verset 6, les fils de Juda et de Jérusalem aux Yavanites, c'est-à-dire aux Grecs, afin de les éloigner de leurs frontières. Au verset 3 déjà, ils ont tiré mon peuple au sort, ils ont donné le garçonnet pour une prostituée, ils ont vendu un garçonnet qu'ils avaient pris comme prisonnier, et puis ils se sont payés une prostituée avec ça, ils ont vendu la fillette pour le vin qu'ils ont bu. Voilà les crimes qui sont dénoncés ici, et ils appartiennent à l'époque du prophète Joël. Mais l'annonce du châtiment de ces nations s'élargit ici, se reporte à un avenir plus lointain, sans que le prophète sache lui-même quelle est la distance dans le temps exactement. C'est en ces jours-là, formule pour les périodes finales, et c'est le jugement final de toutes les nations, finalement, qui est ici en cause. Elles vont toutes se rassembler, et leur rassemblement, qui est un rassemblement guerrier pour faire la guerre au peuple de Dieu, ce rassemblement sera le moment de leur jugement. Dieu va les juger, Dieu va les punir, et ce sera comme une immense vendange, et, peut-être la moisson, bien que là, il y a des... une traduction différente qui soit possible, dit Sylvain Romerovski, au verset 13, et surtout la vendange, le pressoir est plein, les cuves regorgent, car grande est leur méchanceté. Des foules, dans la vallée du Verdict. De nouveau l'image de l'éclipse, le soleil et la lune s'obscurcissent, mais nous avons là l'image d'un immense rassemblement de peuples païens hostiles à l'Éternel, qui veulent lui faire la guerre, mais qui seront là même jugés. Alors à ce propos, je pense qu'on peut faire les remarques suivantes, disons les remarques principales. Le lieu est appelé la vallée de Josaphat. Il y a peut-être une allusion historique à un épisode du règne de ce roi Josaphat. D'après le deuxième livre des Chroniques au chapitre 20, Dieu lui a donné la victoire sur une coalition d'ennemis, des Édomites, des Moabites, etc. Et Dieu lui a donné d'ailleurs la victoire très facilement ce sont ces coalisés qui se sont mis à s'entretuer, se sont disputés et se sont entretués. Peut-être une allusion à cet épisode. Les hommes se rassemblent et réussissent à s'unir jusqu'à un certain point, malgré leur agressivité mutuelle, contre l'Éternel et contre son peuple, mais même cela ne tient pas et Dieu les dresse les uns contre les autres. Mais probablement c'est surtout le nom de Josaphat qui est la raison du choix du terme, ici vallée de Josaphat. Car Yehoshaphat, Josaphat, Yehoshaphat, ça veut dire l'Éternel juge. Donc c'est vraiment la vallée du jugement. C'est comme ça que c'est évoqué. Elle est aussi appelée la vallée du verdict, un peu plus loin, même thème du jugement. Ça c'est ma première remarque. Deuxième grande remarque, cette prophétie semble être la prophétie mentionnée dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 38-39. Les chapitres 38 et 39 d'Ézéchiel parlent d'une grande coalition de païens qui vont monter contre la terre promise, le peuple de Dieu, et puis seront anéantis par Dieu. Alors, le chef de cette coalition, c'est Gog, qui lui-même a pour peuple Magog, qui est avec lui, mais avec aussi beaucoup d'autres coalisés. Et dans ce texte 38-39, le prophète Ézéchiel dit, de la part de Dieu, à Gog, j'ai parlé de toi il y a longtemps par mes prophètes. Et puis on cherche dans les prophètes avant Ézéchiel. Ézéchiel donc a prophétisé vers 590, à partir de 590 ou un peu avant. Et on cherche chez les prophètes avant lui. Mais on ne trouve pratiquement pas de prophétie d'un grand rassemblement de peuples païens qui vont être du même coup jugés. Sauf ici. Donc, il est probable que c'est ce passage de Joël 4 qui est, en quelque sorte, la référence pour la parole dite à Gog, que Dieu avait parlé de lui longtemps auparavant, de sa coalition. Et il y a un indice qui va dans ce sens encore en plus. Le mot foule dans la vallée de la décision utilise le mot hamon en hébreu, hamon. Or, c'est un mot qu'on retrouve justement dans Ézéchiel 38-39. Il est question là de la multitude de Gog, hamon Gog. Donc, c'est très probable que c'est en effet le passage que Ézéchiel veut évoquer celui-ci, et qu'ils ne disent pas le prophète Joël, on peut le comprendre. Et alors ce qui est intéressant, c'est que vous savez que le passage de Gog Magog est lui-même cité par l'Apocalypse. Il nous est dit au chapitre 20 de l'Apocalypse que Gog et Magog monteront contre la cité sainte et que Dieu interviendra pour anéantir cette grande et finale offensive du paganisme contre le peuple de Dieu. Donc nous avons là un cortège de textes bibliques qui nous permet, je crois, de comprendre que c'est vraiment le combat final et le jugement des nations par Dieu. Et puis la dernière partie, alors j'accélère, la dernière partie de ce livre nous présente la vision de la terre promise, enfin possédée dans la paix. C'est le but que Dieu va atteindre. Le lait et le miel, vous savez, c'est caractérisé la terre promise, une terre ruisselante de lait et de miel, abondance d'eau, ce qui n'est pas le régime climatique ordinaire de la Palestine, et contraste des destins. Les ennemis de Dieu n'ont pas part, au bout du compte, à la bénédiction, car il faut invoquer le nom du Seigneur, il faut se tourner vers lui pour être sauvé. Et une promesse d'habitation de Dieu, de purification parfaite, comme l'avenir dernier et définitif de l'humanité, de ceux qui auront invoqué le nom du Seigneur. Alors il y a des petits problèmes de traduction là, mais je ne pense pas qu'il soit si important que je doive prendre du temps pour en parler. Je conclue en relevant que le prophète Joël unit trois thèmes particulièrement, et qu'il me semble important de voir que ces trois thèmes sont solidaires. On pourrait dire que le prophète Joël est d'abord le prophète de l'esprit. C'est clair que le prophète Joël est le prophète de l'esprit que Dieu répand et qui aussi jaillit du temple nouveau. Au verset 18, du temple jaillit une source, c'est aussi le Saint-Esprit. Et ça, nous en avons la preuve parce qu'on la retrouve dans Ézéchiel 47. Vous voyez, Ézéchiel avait lu Joël, s'appuyait sur Joël. Et le Nouveau Testament en parle et dit que c'est le Saint-Esprit. Jean 7, 37 et suivant, fait une allusion très directe à Ézéchiel 47. Et Jean nous dit, il parlait de l'Esprit. Et fleuve d'eau vive qui coule du sein de Jésus qui est le vrai temple. Oui. Bon, ça c'est donc un point qui, je crois, est acquis. Joël, prophète de l'Esprit. Joël, prophète de la terre. Eh oui, il a commencé par se désoler de la terre asséchée et dépouillée de toute sa végétation par les sauterelles, etc. Et il achève par cette terre promise dans toute sa luxuriance et dans sa paix que Dieu lui accorde. Prophète de la terre pour le peuple de Dieu. Et enfin, prophète de la présence divine. Nous avons, en fait, dans les trois sections, ce qui correspond à salut ici, en fait, une promesse de présence de Dieu. C'est implicite en 3:5, car le Seigneur est là pour appeler à Sion, à Jérusalem, ceux qui bénéficient du salut, ceux qui sont les rescapés de la grâce de Dieu. C'est encore répété à la fin de la deuxième grande section. Vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel, votre Dieu, qui demeure à Sion. Et il est, verset précédent, un refuge pour son peuple. Et puis, c'est le dernier mot du livre. L'Éternel demeurera dans Sion. C'est le prophète de la présence de Dieu, de sa résidence. On pourrait dire de son temple. Si le temple a tellement d'importance, c'est le service des prêtres. C'est parce que le temple, c'est le lieu où Dieu réside. Le lieu où il a disposé sa présence. Alors je dis, il faut bien voir que ces trois thèmes, qui sont vraiment les trois grands thèmes du message de Joël, sont solidaires. Parce que comment Dieu est-il présent? Dieu est présent, forcément, d'une manière qui l'associe à la terre. S'il y a une terre promise, c'est parce que Dieu, justement, y établit sa présence. Il n'y est pas prisonnier, mais il a choisi. Il a choisi un lieu, parce que les hommes ont besoin de lieux. Et pour vraiment être avec Dieu, il faut qu'ils aient un Dieu qui vienne avec eux, qui se dispose un espace pour la rencontre avec les humains. Donc terre et présence, ça va ensemble. Et puis, comment Dieu est-il présent? C'est par son esprit qu'il est présent. L'Esprit de Dieu, c'est justement Dieu se rendant présent aux humains, leur permettant de le rencontrer et de le connaître. Donc, prophète de l'Esprit, ça va avec prophète de la présence. D'ailleurs, la présence de Dieu dans l'Exode était figurée par la colonne de fumée qui est un symbole de l'Esprit. Comme je vous l'ai dit, la nuée qui est un symbole de l'Esprit. Donc, Dieu est présent par son Esprit et c'est par son Esprit qui se déverse sur tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur, qu'il est présent parmi eux dans leur vie et qu'il fait de leur lieu aussi son lieu à lui, le lieu où il habite. On peut ajouter d'ailleurs que cette présence de Dieu, elle a deux aspects que l'on voit bien en évidence dans le texte et dans le ministère de l'Esprit. Elle est d'abord source de vie, la présence de Dieu. C'est la source de la vie. Il a la vie en lui-même, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même pour qu'il nous la donne. Source de vie. Et c'est l'esprit de vie qui nous la communique jour par jour. Or ici, l'esprit apparaît comme cette pluie vivifiante qui rend la vie à un territoire désolé, mort de sécheresse. Voyez. Donc l'aspect de vie, le vallon des acacias, les acacias poussent dans des endroits très arides, c'est vraiment la vie grâce à l'Esprit de Dieu qui communique sa présence. Mais d'autre part, la présence de Dieu exige la pureté. Car les yeux de Dieu sont trop purs pour voir le mal. Toute souillure doit être éliminée. D'où l'aspect de jugement. L'esprit est celui qui purifie. Et comme l'eau du ciel qui jaillit du temple, il est l'esprit de la purification qui nous permet d'être net, d'être purifié de toutes les tâches qui nous rendent incapables d'habiter avec Dieu, comme nous y sommes invités. Vous voyez comment ces choses sont parfaitement liées, c'est un tout cohérent dans le livre de Joël. Et je crois qu'il est assez clair que c'est un message pour nous, que Dieu est vraiment en place dans notre vie par son esprit vivifiant et purificateur. L'heure est arrivée, j'ai rempli mon temps, mais moi je suis prêt à répondre encore à des questions. Si vous avez des questions à poser, la fois prochaine ce serait Jonas, hein, mais je ne pense pas que ce soit au mois de mars, ce sera sans doute le mois d'après.
Je voudrais simplement vous poser une question de traduction. Dans second, c'est Joël 2:31, enfin, c'est dans le chapitre 3 dans la colombe.
Oui.
Quand il est traduit avant l'arrivée du jour de l'Éternel. Oui. Est-ce que la morte a raison de préférer le départ du jour de l'Éternel?
Je vais regarder dans l'original que j'ai avec moi. Le terme qui est employé, c'est une forme verbale, il correspond à un verbe qui a un spectre sémantique très large. C'est le verbe « aller » le plus couramment, souvent pour l'arrivée et l'entrée, mais c'est vrai qu'il peut signifier « aller et venir » aussi. Ce n'est pas un verbe pour désigner spécifiquement le départ, quitter un lieu. Non, alors pas du tout. C'est le verbe « beau » qui est vraiment un verbe très très fréquent et qui... souvent signifie l'arrivée ou l'entrée même. Dans le psaume 121, il est employé, je vais regarder, parce que nous connaissons tous cette formule, ton départ et ton arrivée, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Alors je vais voir ce qui correspond, c'est le mot arrivée. C'est le même verbe beau qui est employé. Donc l'Éternel gardera littéralement dans le psaume 121, verset 8, ton sortir, verbe couramment traduit sortir, et ton beau, à ton arrivée. Donc je pense que là, M. Lamorte n'a pas vraiment d'appui sérieux. Oui, M. Enze.
La question. Je pense sur les trois derniers versets du chapitre 3.
Oui.
Dans la différentes pensées qui sont émises par le prophète, particulièrement les versets 2 et 3, je voulais savoir est-ce que ces deux événements qui sont annoncés doivent être pris comme des événements qui doivent arriver de façon conjointe, ou on peut faire un parallèle avec le chapitre 24 de Matthieu, où le Seigneur annonce des choses qui arrivent de. Qui devait arriver de façon décalée dans le temps.
Oui, oui.
Et puis, parce que moi, ça me fait penser à la deuxième partie du verset 3, à d'autres passages qui sont similaires dans l'Apocalypse. Et puis, à la fin, quand il parle de ceux qui seraient sauvés quand ils prient l'Éternel, à cette dernière génération d'Israélites qui pourront le saluer.
Oui, je comprends très bien votre question et je dirais qu'il n'est pas exclu, a priori en tout cas, qu'il y ait un décalage temporel entre l'accomplissement des deux premiers versets de Joël 3 et puis l'accomplissement des versets 3 et 4 sur ces signes célestes, ces grands bouleversements, qu'on pourrait les décaler dans le temps, que ça arrive dans le texte biblique, que des intervalles qui ne paraissent pas indiqués dans les phrases du texte, en fait se situent entre les moments d'accomplissement. Je suis quand même assez réticent, ici, à adopté, disons, cette solution. D'abord, je rappelle cette règle, que si on peut éviter d'y recourir, c'est toujours mieux, disons, parce que lorsqu'on suppose un intervalle qui n'est pas clairement indiqué, on tend quand même à rajouter quelque chose au texte. S'il faut le faire, refaire, c'est pas tout à fait interdit, mais il vaut mieux, si on peut éviter, donc si on peut comprendre le texte autrement, ne pas recourir à ce type d'hypothèse. Deuxièmement, ce qui me gêne dans cette pensée, c'est que Pierre, citant Joël, a cité ces versets-là aussi, le jour de la Pentecôte. Il a dit « c'est ici ce qui s'est produit ». Et comme il y a eu des signes du bouleversement et qu'on peut prendre le langage comme pas tout à fait littéral de toute façon, il me semble donc plus sage, étant donné cette citation par acte 2, de dire l'accomplissement de ces versets 3 et 4 n'est pas entièrement, en tout cas, reporté à l'avenir. Ça a commencé de s'accomplir aussi. L'image de la continuité que je vous ai proposée, Dieu commence à déverser le jour de la Pentecôte, les fleuves de l'Esprit Saint, mais ça continue, peut valoir aussi à propos de ces signes, le grand bouleversement cosmique. Et on peut dire que la deuxième venue consommera, fera en quelque sorte les 100% de ce qui commence déjà à se produire dès la première venue de Jésus-Christ. Comme pour le verset 5, nous avons la citation de Romains 10 qui l'a très clairement, encore plus clairement que pour acte 2, 39, applique ce verset à l'activité missionnaire de l'apôtre. Donc je pense que, voyez, si on décalait dans le temps, il y aurait quelque chose de gênant. D'ailleurs, vous suggériez que ça s'applique à ce moment-là aux Israélites dans l'avenir, mais ce n'est pas du tout ce que suggère l'usage du Nouveau Testament. Paul adopte ce verset, disons, il cite ce verset, pour justifier son activité missionnaire parmi les nations. Il dit, c'est sur la base de ce verset, en quelque sorte, que mon ministère missionnaire est justifié. Parce que précisément, le verset ne fait plus de différence entre les juifs et les non-juifs. Ce n'est pas dit en clair, mais il suffit d'invoquer le nom du Seigneur. Voilà donc comment je répondrai à votre intervention, mais c'était intéressant d'en parler.